franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, des révélations autour de l'espèce éteinte des Denis Sauvien.
En Russie, des archéologues ont exhumé la trace d'une toute nouvelle espèce humaine.
La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde archéologique.
Ce qui pourrait bouleverser ce qu'on sait des premiers hommes.
Une nouvelle espèce d'hominidés anciens. Une découverte presque aussi importante que celle de l'homme de Néandertal, 150 ans auparavant.
On s'est dit, les Néandertaliens tirent leur nom de la vallée de Néander, où ils ont été trouvés en 1856. Puisqu'on a trouvé ça dans la grotte de Denisova, appelons-les des Denisoviens.
Et ça fait à peine 5 ans que ce nouveau cousin des hommes modernes a été découvert donc dans cette grotte de Denisova en Sibérie. Les précédentes analyses ADN avaient montré que les Denisoviens avaient cohabité et même fricoté à la fois avec les Néandertaliens, mais également avec les hommes modernes. Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Alors ces nouvelles analyses ADN de Denisovien, qu'est-ce qu'elles révèlent exactement ?
Eh bien, elles nous révèlent des informations très importantes sur l'histoire de ce groupe et sur sa diversité.
Alors ce groupe, c'est une nouvelle espèce, hein, on peut le dire.
Ah, la notion d'espèce, c'est un concept, hein. Alors, disons que c'est quelque chose qui est proche, oui, d'une espèce différente de mammifères, mais avec une possibilité d'hybridation, hein, de reproduction avec les Néandertaliens ou les hommes modernes.
Qu'est-ce que nous apprend Jean-Jacques Hublin une forte diversité génétique chez les Denisoviens?
Alors, il faut répéter peut-être que pendant que les ancêtres de l'homme moderne évoluaient en Afrique, les Néandertaliens se développaient en Eurasie, et on sait maintenant avec la découverte de ces Denisoviens qu'en fait ils avaient des cousins qui existaient quelque part en Sibérie, dans l'Altaï. Avec ces nouvelles découvertes, dans le fond, ce que l'on découvre, c'est que l'occupation de la grotte de Denisova par ces hommes est beaucoup plus longue que ce que l'on croyait.
C'est-à-dire pendant combien de temps à peu près ?
Au moins 60 000 ans.
Ouais.
Tout ça se passe probablement avant 70 000 ans. Hein. Donc 60 plus 70, vous voyez, on retourne assez loin dans le passé. On sait que les Denisoviens et les Néandertaliens représentent deux groupes frères, deux branches qui se sont séparées l'une de l'autre il y a à peu près 400 000 ans.
Ouais.
Et avec ces nouveaux fossiles et surtout avec l'ADN qu'ils nous livrent, on se rend compte que l'histoire démographique de ces deux groupes est assez différente. C'est-à-dire que les Néandertaliens ont connu des réductions très importantes de leur diversité, sans doute à cause d'espèces de goulots d'étranglement démographiques, génétiques, hein, de fortes réductions de la population pendant des épisodes glaciaires. Au contraire, les Denisoviens semblent beaucoup plus variés, et ça confirme l'idée qu'en fait, ce que l'on a dans l'Altaï, ce que l'on a à Denisova, eh bien, c'est la marge, la frange d'une population beaucoup plus importante qui a occupé une partie de l'Asie, une partie importante de l'Asie, et qui était peut-être beaucoup plus diversifiée que ce que l'on trouve à Denisova.
Jean-Jacques Hublin, quand vous parlez des fossiles, justement, quelles sont les pièces à conviction dont on dispose pour travailler sur ces Denisoviens ?
Alors, à Denisova, fort peu de choses, en fait. C'est-à-dire que on a d'un côté une information génétique d'une richesse absolument extraordinaire. On a un génome complet de ces hommes. En termes de fossiles, eh bien, on a un petit bout d'une phalange d'une petite fille,
oui,
d'environ 8 ans. Donc c'est gros comme un grain de café, à peu près. Et puis, deux dents de sagesse d'adultes, alors qu'elles sont assez remarquables parce qu'elles sont très très grosses et elles ont une morphologie très bizarre. Mais enfin, on est très très loin d'un crâne complet ou d'un squelette de Denisovien. Hein.
Est-ce que parmi les fossiles retrouvés en Asie, on trouve une trace de Denisovien ?
Officiellement, pour l'instant, non. Mais nous sommes plusieurs auteurs à déjà avoir écrit et clamé que probablement dans les collections paléontologiques, en particulier les collections paléontologiques chinoises, on a probablement déjà des restes, et même des restes assez complets de Denisoviens. Parce qu'on sait que ces Denisoviens ont existé en Asie depuis donc au moins 400 000 ans, et on sait qu'ils ont existé probablement aussi dans le sud de l'Asie, puisqu'on a une hybridation avec les hommes modernes qui est encore visible dans des populations actuelles d'Australie et de Mélanésie. Donc, en fait, si on regarde tout le matériel paléontologique asiatique, eh bien, potentiellement, tout ce qui date entre, disons, 400 000 et 100 000 avant le présent peut être Denisovien.
Vous voulez dire que les chercheurs chinois font de la rétention de fossiles ?
Ben, les chercheurs chinois, ils ont une idée assez particulière sur l'évolution humaine qui est très sino-centrée, si je peux dire. Hein. Et donc, ces vagues de peuplement qui viennent d'Afrique, c'est pas quelque chose qui est vraiment intégré dans les modèles qui sont défendus par les chercheurs chinois. Mais ça viendra parce que il y a encore une fois un certain nombre de fossiles, en particulier dans le nord de la Chine, qui morphologiquement, des dents en particulier, ressemblent quand même pas mal à ces dents de Denisova, et puis ont des caractères qui, dans le fond, en font des cousins vraisemblables pour les hommes de Néandertal, dans la bonne fenêtre de temps.
Et ça ressemble à quoi alors une dent de Denisovien, Jean-Jacques Hublin ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier alors ?
Elle est très très grosse, donc sont des dents de sagesse, hein, des troisièmes molaires. Alors ces dents, chez l'homme actuel, elles sont généralement réduites, même parfois disparues complètement. Et avec ces Denisoviens, qui sont quand même un groupe humain relativement récent, hein, puisqu'on parle de quelques centaines de milliers d'années, eh bien on a des formats dentaires qui rappellent ce qu'on trouve chez les premiers représentants du genre Homo il y a 2 millions d'années en Afrique.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que ça veut dire ce que vous nous dites aujourd'hui, que le territoire couvert par les Denisoviens était plus grand que celui occupé par les Néandertaliens ?
Eh bien, c'est presque certain, parce que, d'abord, il suffit de regarder une carte, hein, l'Asie, c'est immense. On sait donc que des hommes modernes en chemin vers l'Australie ont croisé, et se sont croisés d'ailleurs, avec des Denisoviens. Et donc, on est obligé d'imaginer une distribution en gros qui va de la Sibérie jusqu'à l'océan Indien, donc c'est une surface énorme. Alors maintenant, il faut bien se rendre compte que ce soit la distribution des hommes de Néandertal ou celle des Denisoviens, elle a fluctué au cours du temps, et on sait en particulier que les hommes de Néandertal, à un moment de leur histoire, probablement vers la fin, eh bien, ont étendu leur territoire très loin vers l'est, et on les trouve aussi dans la grotte de Denisova. Donc cette grotte de Denisova, même si elle est, marginale par rapport au territoire des Denisoviens, elle nous raconte une histoire quand même qui est assez extraordinaire, puisqu'on a, dans le fond, trois groupes humains qui se sont succédés dans cette grotte. On a ces Denisoviens qui ont existé là pendant au moins 60 000 ans, probablement plus. On a une excursion de Néandertaliens qui arrive là à un moment donné. Peut-être qu'ensuite on a encore des Denisoviens. Et puis plus tard, les hommes modernes arrivent et eux, ils remplacent tout le monde.
Ouais. À quel moment ont disparu les Denisoviens, Jean-Jacques Hublin ?
Alors, probablement au moment de l'arrivée des hommes modernes dans la région, hein, c'est-à-dire, disons, il y a 45 000 ans à peu près, peut-être 50 000 ans.
Merci beaucoup en tout cas pour ces nouveaux éclairages ces Denisoviens, découverts d'ailleurs grâce à vos équipes de l'Institut Max Planck de Leipzig, et donc cette publication qui est sortie dans les PNAS. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin.
Merci, au revoir.
Bonne journée à vous. Merci Axel.
À demain Mathieu.
À demain pour une nouvelle Une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les êtres humains et les rivières respirent de la même manière. C'est le résultat surprenant d'une étude britannique qui révèle qu'à l'instar des hommes en plein effort physique, les rivières les plus rapides produisent davantage de CO2 que les cours d'eau paresseux. La quantité de carbone ainsi expirée par les rivières et mesurée à l'infrarouge pourrait atteindre jusqu'à 2000 milliards de kilogrammes de carbone par an, selon les scientifiques. Une nouvelle clé donc pour mieux appréhender le cycle du carbone. Nous vous faisions part fin octobre de la découverte découverte miraculeuse de cadavres congelés de lions des cavernes, les plus grands prédateurs de la préhistoire, en Sibérie là aussi. Eh bien, leurs clichés ont été révélés au grand public cette semaine et vous pouvez donc dès maintenant les voir sur la page Facebook et sur le compte Twitter de la Tête au Carré. Et puis à découvrir également la première photo d'une planète en cours de formation. Des astronomes ont réussi l'exploit de prendre sur le fait la formation d'une exoplanète située dans un très jeune système stellaire à 450 années-lumière dans la constellation du Taureau. Une prouesse lorsque l'on sait que la différence de luminosité entre une étoile et une planète est comparable à celle d'une luciole et d'un phare.